Paris vaut bien une messe. Henri IV. Deux mille ans d'histoire. Le 25 juillet 1593, à 8h du matin, Henri IV, habillé d'un manteau noir, se présentait à la porte de l'église abbatiale de Saint-Denis. « Qui êtes-vous ? » lui demanda l'archevêque chargé de l'accueillir. « Je suis le roi qui demande d'être reçu au giron de l'église apostolique et romaine. » En ce lieu chargé d'histoire où reposaient tous ceux qui l'avaient précédé sur le trône de France, Henri IV venait abjurer solennellement sa religion protestante pour pouvoir entrer dans sa capitale et mettre fin à la guerre qui, depuis plus de 30 ans, divisait son royaume. « Paris vaut bien une messe », aurait-il dit ce jour-là, en pensant peut-être que dans cette ville, 21 ans plus tôt, il avait échappé de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy.
« C'est commencé. »«
Non ! Ne vous laissez pas faire ! Tu es protestant ?
Je le suis ! »
Bien sûr qu'il est protestant. Mais qu'est-ce qu'on va dire?
Tu l'as entendu? Récite le credo! Récite!
Non!
Credo inunum Deum! Patrem omnipotentem! Récite!
Non!
Récite!
Condé maintenant! Ils ont réussi à traverser la Seine. Il est en fuite!
J'y vais moi!
Pourquoi?
Toi retourne au Louvre. On ne doit pas te voir l'épée à la main.
J'ai gagné des batailles. Le dieu des armées est avec moi.
Pas une bataille, c'est une boucherie.
Pascal, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait de La Reine Margot de Patrice Chéreau, le massacre des protestants de Paris le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, l'apogée de ces guerres de religion que l'on retrouve aussi dans votre roman La Croix de l'Occident, dont la deuxième partie vient de sortir chez Fayard. On a du mal, Max Gallo, à imaginer aujourd'hui comment, pourquoi, au XVIe siècle, on a pu, les Français ont pu s'entretuer pendant 30 ans parce qu'ils croyaient ou non au culte des saints, à la communion ou à l'autorité du pape. Ça paraît impensable aujourd'hui.
Oui, ça paraît impensable, d'autant plus qu'il s'agit non seulement de Français, mais de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se trucident entre eux. Ceux qu'on appelle les protestants et qu'on surnomme d'être des malsentants de la foi. Et puis les catholiques. Mais on ne peut pas comprendre cette violence, cette cruauté. Vous savez, il y a un très beau vers du poète protestant Agrippa d'Aubigné qui dit ceci: « Ce siècle avait Satan pour nourrice ». Et c'est vrai qu'on se tue constamment dans ce XVIe siècle, mais on ne peut pas comprendre donc cette violence si on oublie que derrière ces oppositions religieuses, il y a des rivalités de pouvoir, il y a des rivalités même internationales. L'Espagne est catholique, les catholiques français s'appuient, s'adossent à l'Espagne, les protestants calvinistes ou luthériens s'adossent aux provinces unies qui sont protestantes. Et on voit comment l'étranger vient aggraver encore cette violence. Derrière les protestants, on soupçonne une alliance contre l'Espagne, contre les puissances catholiques. Les catholiques, eux, sont associés aux Espagnols. Donc, il y a les questions de la foi et il y a les questions du pouvoir et derrière les questions internationales.
Une Europe divisée et une France divisée aussi, dont certains princes se convertissent au protestantisme. C'est le cas par exemple de Jeanne d'Albret, la mère de Henri de Navarre, du futur Henri IV, qui naît à Pau en 1553. Cela dit, pendant toute sa jeunesse, personne ne pouvait imaginer que ce petit prince, qui deviendra roi de Navarre, deviendrait un jour roi de France. Il est né sous Henri II et il y aura encore trois autres rois avant lui, les trois fils de Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Au fond, c'est un prétendant très éloigné du trône.
C'est un prétendant éloigné qui lui-même est un protestant, mais je dirais un protestant modéré. Les problèmes religieux ne sont pas des problèmes fondamentaux pour Henri, pour le futur Henri IV, pour Henri de Navarre, ce qui expliquera d'ailleurs ces multiples changements de religion en fonction de ses intérêts politiques. Mais il bénéficie, si l'on peut dire, de ce que les assassinats, les morts naturelles font qu'il est dans l'ordre de la succession, de plus en plus proche d'Henri III, jusqu'à ce que celui-ci soit à son tour assassiné, et à ce moment-là, il est le successeur désigné. Et puis, il y a un événement qui est évidemment tout à fait capital, c'est son mariage.
Oui, il devient le beau-frère d'Henri III.
Il devient le beau-frère d'Henri III, il se marie à Marguerite de Valois, et c'est une tentative, ce mariage est aussi une tentative politique, il a lieu en 1572, à la veille de la Saint-Barthélemy, c'est une tentative politique pour trouver une réunion entre ces chrétiens de différentes observance.
Mariage très politique, inquiétez pas, un mariage d'amour, puisque je crois bien que cette Marguerite de Valois, la reine Margot, a refusé le mariage jusqu'au pied de l'autel où a été célébré le 18 août 1572.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ?
J'accepte.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Et c'était la reine Margot, Marguerite de Valois, contrainte par sa mère d'épouser Henri de Navarre, le futur Henri IV. Ça, c'était un mariage assez politique. Sa mère, Catherine de Médicis, y tenait beaucoup. Je crois que c'était pour apaiser, d'ailleurs, la tension entre catholiques et protestants.
La monarchie, et notamment Catherine de Médicis, tient à essayer de recoudre ensemble ces partis qui s'opposent, ces Français, ces chrétiens qui se déchirent. Et il y a derrière, j'y reviens parce que c'est très important, il y a derrière évidemment ces questions de politique internationale, l'Espagne, les Provinces-Unies. Mais il faut dire aussi que ce mariage révolte les catholiques. Ils considèrent ce mariage comme véritablement un sacrilège d'une certaine manière. Et ensuite, ils sont inquiets, non seulement sur le plan religieux, mais ils sont inquiets parce que arrivent dans Paris pour ce mariage les protestants, les seigneurs protestants, Coligny par exemple, déjà des incidents ont lieu le jour du mariage, la veille, et il y a des phrases très précises dans lesquelles on voit les catholiques les plus déterminés, les Guises notamment, considérer que Paris va jouer le rôle d'une nasse, qu'on va faire entrer tous ces protestants à l'intérieur, et que par un assassinat collectif, une épuration, on va liquider la question. Et c'est bien ce qui va se passer. Le mariage a lieu le 18 août 1572, et 6 jours plus tard,
c'est
la Saint-Barthélemy. Ouais. Et donc, les protestants ont le sentiment d'avoir été... Ils sont armés, ils sont arrivés armés avec des armes de poing, ils sont entre eux, ils vivent dans des quartiers proches du Louvre, ils se mêlent à la foule quand il y a ce mariage, mais en même temps, la population parisienne, il ne faut pas se tromper, la population parisienne leur est très, très hostile. Pour des raisons religieuses, pour le souvenir aussi de ce qui s'est passé avant depuis une dizaine d'années, car depuis une dizaine d'années, on s'étripe, on se massacre en France, et il y a, dans cette volonté d'apaiser les conflits, il y a quelque chose qui choque très profondément, non seulement les ligueurs, mais aussi la population parisienne.
Max Gallo, vous semblez dire que, au fond, cette Saint-Barthélemy, 6 jours après le mariage d'Henri IV, de Henri de Navarre encore, il n'est pas encore Henri IV, et de Marguerite de Valois, c'est un mouvement spontané. Or, dit que derrière ça, il y avait sans doute le roi de France, qui à l'époque était Charles IX, il y avait sa mère, sans doute, Catherine de Médicis, et il y a eu 3000 morts quand même.
Non, c'est pas un phénomène spontané, je dirais que c'est un phénomène populaire, car la population parisienne, elle a suivi les ligueurs, elle a suivi les Guises dans le massacre. Et il faut s'arrêter un peu sur ce massacre parce que il manifeste un état des relations sociales, du comportement humain qui aujourd'hui, on a revu ça au massacre de septembre en 1792 à Paris, mais ce massacre, il révèle la barbarie qui est encore tout à fait présente sous les apparats de la cour. Je prends un exemple, quand dans un véritable attentat, un guet-apens, l'amiral Coligny, proche d'Henri de Navarre, son conseiller suprême, qu'on soupçonne de vouloir faire la guerre aux Espagnols en s'alliant aux Provinces Unies. Donc, vous voyez, il est suspect de trahison en s'associant aux Provinces Unies. Il est tiré comme un lapin dans un véritable guet-apens. Il échappe, il est seulement blessé. Mais quand la Saint-Barthélemy se déclenche, on va voir sur son corps des scènes d'une violence, des troupes de plusieurs centaines d'enfants, je précise bien, là tous les témoins sont d'accord, plusieurs centaines d'enfants qui écharpent ce cadavre jusqu'à ne laisser, dit-on, je cite encore un texte de l'époque, jusqu'à ce que dans toutes les rues de Paris, il y ait des morceaux du corps de Coligny. C'est dire la violence, sans compter ce qui se passe au Louvre même, où là, l'assassinat de tous les protestants, sauf Henri de Navarre qui échappe à ce massacre en se convertissant.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu plus de 3000 morts à Paris.
3000 morts.
Et lui qui est là, à Paris, qui est protestant, qui vient d'épouser la reine Margot, qui est catholique, mais lui, il échappe. Il s'est converti, il a abjuré, en fait, sa foi protestante une première fois.
Il a abjuré parce que la vie valait bien une messe. Ce n'est pas Paris qui valait une messe, mais la vie valait bien une messe. Et il sera évidemment suspect d'avoir abjuré simplement pour sauver sa vie. Un détail encore qui montre bien la violence, c'est qu'on décrit Charles IX de la fenêtre du Louvre avec une grande arquebuse tirant, comme à la chasse, les protestants qui sont sur l'autre rive de la Seine.
Alors Henri de Navarre y échappe, le futur Henri IV, il se convertit au catholicisme, sans conviction du tout. Il va rester prisonnier, littéralement otage des Valois, de la famille royale, pendant 4 ans, jusqu'en 1576, lorsque il parvient à s'enfuir et à revenir en Navarre, en reniant sa conversion forcée au catholicisme et en redevenant protestant.
J'ai eu mes faiblesses. Et la captivité, le deuil et la persécution.
Tu as eu tes faiblesses, mais le pouvoir est digne de toi. Henri, prince des Pyrénées, notre Église te reçoit en son sein. Dieu t'accueille à nouveau. Il te tend la main pour conquérir le royaume de France.
Je suis lavé des bassesses et de la pourriture. J'ai été le complice de cette famille maléfique seulement pour sauver ma vie. Pardonnez-moi. Pardonnez mes lâchetés. Je suis moi. À nouveau. Ma vie, mon courage vous appartient. Ensemble, nous allons faire triompher l'amour de Dieu.
Et c'était donc Henri de Navarre, futur Henri IV, revenant chez lui après 4 ans de captivité, entre guillemets, à Paris auprès des Valois, revenant dans son pays, en Navarre, redevenant protestant. C'est-à-dire qu'aux yeux des catholiques, il est plus seulement un hérétique, comme le sont tous les protestants, mais il devient relapse. Ça, c'est encore pire.
Oui, un relapse, c'est celui qui, après s'être converti, ou avoir donné l'impression qu'il s'était converti, retrouve sa religion des malsentants de la foi. Et il faut dire que cela se passe non seulement autour d'Henri IV, mais dans la profondeur du royaume. Vous avez par exemple, ce qu'on oublie souvent, dans tout le sud-ouest et même le sud, et dans la région aussi des Cévennes, vous avez la création par les protestants, en armes, qui crée un véritable état à l'intérieur du royaume qui s'appelle les Provinces Unies du Sud.
Qui échappe au contrôle de la monarchie.
Qui échappe tout à fait au contrôle de la monarchie. Et cela est vrai à Montauban, cela est vrai à Nîmes, cela est vrai dans de très nombreuses villes, Nérac par exemple, etc.
Nérac qui était une ville très brillante avec une cour,
c'est
la capitale de ces fameuses Provinces Unies. On a un peu oublié, Nérac est une petite ville aujourd'hui de 5500 habitants, ça a été une véritable capitale d'une France, d'une partie de la France qui a fait en quelque sorte sécession.
Mais il faut s'arrêter sur ce point parce que sur ce point de la division du royaume, ça nous montre de quelle manière la France est un pays qui a souvent été dans son histoire, notamment pendant les guerres de religion, un pays qui est au bord toujours, aujourd'hui de manière moins forte, mais qui est toujours au bord de l'éclatement, avec toujours un rapport entre une partie du royaume qui regarde vers l'étranger. Mmh. N'oubliez pas qu'il y a des garnisons espagnoles. Plus tard, il y a des garnisons espagnoles à Paris, mais aussi en Bretagne. À l'Orient, vous avez une garnison espagnole. Vous avez des Provinces Unies des hommes des Provinces Unies, des troupes des Provinces Unies qui viennent au secours des protestants. Et cet arrière-plan de l'unité du royaume qui est brisé par chaque parti qui, à l'intérieur du royaume, en appelle à l'étranger, est une donnée fondamentale pour, vous savez qu'il y a eu 6 guerres de religion. Avec des intervalles, mais 6 guerres de religion.
Alors elles vont reprendre justement lorsqu'en 1584 se produit un événement majeur. Henri III est toujours roi de France, enfin il a succédé à son frère Charles IX, mais il n'a pas d'enfant. et son dernier frère, qui serait devenu roi à sa place, le duc d'Alençon, meurt en 1584. Henri III n'a pas d'enfant, ses deux frères aînés n'avaient pas d'enfant, son cadet n'a pas d'enfant. Ça veut dire que, cette fois-ci, c'est vrai, Henri de Navarre est l'héritier du trône. Si, lorsqu'Henri III mourra, c'est lui qui sera roi de France. Or, il est protestant, et là, évidemment, ça relance la guerre civile, l'apparition de la Ligue. Alors là, il y a vraiment une guerre civile effroyable qui se produit, à laquelle d'ailleurs participe Henri IV, avec, enfin, le futur Henri IV, puisque Henri III est toujours vivant. Mais cela dit, Henri III, qui est catholique, a quand même un comportement plutôt pas mal, puisqu'il fait en sorte que de préparer, en quelque sorte,
Henri III
son successeur au trône.
Je dirais qu'Henri III, appelons-le avec ses faiblesses, appelons-le un patriote français. Et il a le sentiment que pour le royaume, pour l'intérêt du royaume, pour l'unité du royaume, son véritable successeur, c'est Henri de Navarre, fut-il protestant, et naturellement il espère à une nouvelle conversion d'Henri III. Et en face de, et il essaie de jouer en somme contre...
Une nouvelle conversion d'Henri IV, vous voulez dire
Conversion d'Henri IV. Il essaie de jouer la voie, une voie moyenne, ou en tout cas une voie du centre, je dirais, mais il a en face de lui, non seulement Henri de Navarre, avec lequel il veut s'entendre, auquel il veut léguer la couronne, mais il a en face de lui la famille de Guise, la famille des Guise, qui, eux, sont alors directement adossés à l'Espagne. Et cette ligue est très menaçante, et l'épisode va se conclure par un véritable guet-apens cruel et d'une cruauté totale, puisque convoquant Henri de Guise qui se méfie, l'entourage d'Henri de Guise se méfie, les convoquant, il les fera assassiner dans le conseil même. Et cette mort d'Henri de Guise, elle ouvre à nouveau une étape tout à fait barbare, on peut dire, des guerres civiles. Et en même temps, elle ouvre la porte aussi à Henri de Navarre, ouais, s'il est vainqueur.
Oui, mais surtout, guerre civile, avec l'assassinat à son tour de Henri III par un moine ligueur,
Jacques Clément,
le 1er août 1589. Alors là, c'est simple, Henri de Navarre devient Henri IV, il succède, il est en titre le roi de France, c'est en août 1589, mais alors d'une France qui ne lui obéit pas, dont il ne contrôle qu'une toute petite partie. Par exemple, Paris refuse totalement d'accueillir
Paris, avec sa garnison espagnole, avec l'aide financière, on a des documents qui montrent à quel point l'argent espagnol est venu se déverser sur les catholiques français d'Henri de Guise. On espère qu'ils accéderont au trône. Et il y a une période très incertaine dans laquelle on ne sait pas réellement qui va l'emporter, soit d'Henri de Guise et les Espagnols, soit les Béarnais, enfin le Béarnais, et une série de batailles ont lieu à Arquivry,
Il doit conquérir son royaume par les armes.
Absolument, c'est un royaume qu'il faut conquérir. Et il a l'intelligence de comprendre, si vous voulez, que il va je parle d'Henri IV maintenant, il a l'intelligence de comprendre que s'il veut emporter cette guerre contre les Guises, il faut non seulement qu'il se reconvertisse, mais en même temps qu'il fasse la conquête de toute une opinion, celle des notables, des parlementaires, qui sont là de cette période de guerre et qui aspirent à la paix. N'oubliez pas que c'est une période dans laquelle les rois meurent facilement. Dans cette période, on les assassine. Donc, le pays, dans sa profondeur, en tout cas parmi les notables, en province aussi, on aspire à être français d'abord et au fond à retrouver le calme, un peu de prospérité, car évidemment la situation dans les campagnes, la situation à Paris, la famine à Paris, puisqu'il y a le siège
de
Paris,
le siège de Paris,
et véritablement on ne peut plus aller s'alimenter, c'est-à-dire aller dans les jardins qui sont hors des murs de Paris, aller en Beauce pour acheter du blé. Donc, on meurt de faim à Paris et le chiffre des victimes est de plusieurs dizaines de milliers.
Dans une ville qui en compte 200 000, moi j'ai lu quelque part 40 000 morts,
oui,
sur 200 000 habitants.
Et 40 000. C'est
ce siège qui a été terrible, plus meurtrier encore pour Paris que la Saint-Barthélemy l'a été pour
les protestants à Paris. A coûté pour toute la France 40, au moins 40 000 victimes.
Alors, c'est, au fond, c'est cette impasse, dans laquelle il se trouve, parce qu'il s'est battu, il y a eu ces batailles bataille, vous les citiez, Max Gallo, la bataille d'Ivry notamment, avec cette fameuse formule « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Il fait le siège de Paris, puis comme on est dans l'impasse, eh bien il décide finalement, Henri IV décide de renoncer pour la seconde et dernière fois à sa religion, à l'abbaye de Saint-Denis, le 25 juillet 1593, une date importante de l'histoire de France.
Je désire retourner au troupeau de la vraie bergerie et l'église catholique, apostolique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie luthérienne et calviniste et vous supplie au nom de Dieu de m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises et de le recevoir au sein de la communauté qui vit sous l'obédience du pape.
Henri IV, vive ce roi vaillant! Vive Henri IV, vive ce roi vaillant! Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Vive la France, vive le roi Henri! Vive la France, vive le roi Henri! Car un son danse en disant comme Paris, vive la France, vive le roi Henri! Vive le roi Henri!
Vous voyez dans cette chanson
les quatre barbus. Hein.
Vive la France,
oui.
Vive le roi Henri. La
question. C'est une chanson d'époque.
Oui, justement, c'est pour ça. Je la connaissais, en tout cas dans ma mémoire, elle me revient. Vous voyez combien la question de l'unité nationale est capitale dans l'adhésion au roi Henri. Et l'unité nationale passe par la conversion. Henri de Navarre, Henri IV, comprend parfaitement que c'est une concession qu'il est absolument nécessaire de faire. Alors, sur sa sincérité, entre toutes ses religions, puisqu'il a changé plusieurs fois, sur sa sincérité, on peut s'interroger. En tout cas, il considère que politiquement, il doit être catholique, et il abjure, et il devient catholique.
Et il devient Henri IV,
Il devient
Henri IV. Parce que, bon, il l'est depuis la mort de Henri III, depuis 1589, mais en réalité, il devient Henri IV, et il devient, en plus, extrêmement populaire. Il deviendra, lui qui s'est battu, lui qui a failli être victime de plusieurs assassinats, il le sera d'ailleurs plus tard, mais il a été le roi le plus populaire de France, on le sait, le vert galant, l'homme à la poule au pot, etc.
Oui, ça, je ne sais pas si ça n'est pas, très franchement, je ne veux pas minorer votre optimisme. Je pense qu'il y a une part de légende. Je pense que les catholiques les plus déterminés ne lui ont pas pardonné et ne l'ont pas accepté parce qu'il y a toujours l'idée, et ce sera une des causes de son assassinat, l'idée que il va peut-être reprendre la guerre contre l'Espagne, faire la guerre à l'Espagne catholique. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète les milieux les plus, j'allais dire, les plus intégristes. En tout cas, les jésuites, par exemple. Et on sait
on
très sait, bien...
On se méfie de lui encore.
On se méfie de lui, d'autant plus que l'édit de Nantes, qui clôt en apparence cette période, et en fait cette période de guerre civile, en 1598, l'édit de Nantes n'est pas, comme on le dit souvent, un édit de tolérance. En fait, pour le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un édit qui admet le communautarisme, puisque les protestants conservent des places fortes dans lesquelles ils sont armés, qu'ils défendent, on les accepte, mais avec leurs différences.
Il accepte quand même la double religion, ça c'est unique
c'est
dans l'histoire de l'Europe de l'époque.
Tout à fait, mais précisément, ça n'est pas, c'est accepté par lui, mais c'est subi par une partie profonde du pays, ce qui expliquera que dès Louis XIII, et naturellement Louis XIV, on veuille revenir sur cet édit de Nantes qui est tout à fait considéré comme une aberration.
Vous disiez à l'instant qu'on se méfiait de Henri IV, y compris après sa conversion. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a une cérémonie dont on n'a pas parlé, qui fait qu'un roi devient vraiment roi. C'est pas seulement à la mort de son prédécesseur, c'est pas seulement parce qu'Henri IV s'est converti, c'est quand il est sacré. Or, Henri IV a été sacré peu de temps après sa conversion, son entrée dans Paris. Il est sacré le 27 février 1594, non pas à Reims, comme le veut la tradition, mais à Chartres, parce que Reims était entre les mains des ligueurs et refusait d'accepter Henri IV dans ses murs.
C'est pour ça que dans la longue durée, l'édit de Nantes est une paix très précaire. C'est un moment où il y a un équilibre, où la sagesse paraît l'emporter. En fait, les camps restent assez nettement divisé, parce que l'idée du catholicisme est une idée qui impose, je dirais, une unité de religion avec celle du monarque. Et l'assassinat d'Henri IV en 1610 montre très bien, comme Henri III, son prédécesseur, avait été assassiné par un moine, Jacques Clément, eh bien, Henri IV est assassiné par Ravaillac, dont on sait qu'il a, dont on soupçonne avec beaucoup de raison, dont on soupçonne qu'il a été pris en main, endoctriné pour être en effet l'assassin du roi de France. Donc les choses ne sont pas réglées, loin de là, par l'édit de Nantes.
C'est donc cette atmosphère qu'on retrouve dans votre roman, avec dont le héros s'appelle Bernard de Thorenc. Lui, il est d'autant plus étonné de tomber en pleine guerre de religion, il arrive au moment de la Saint-Barthélemy, qu'il vient d'une bataille qui est l'Épante, qui est une guerre entre deux religions bien distinctes, qui est le christianisme et l'islam. Et là, il revient en France et il tombe dans une guerre civile, en
Mais
quelque sorte, entre chrétiens.
Mais ce qui m'a fasciné, et ce qui est fascinant quand on y réfléchit, c'est que la bataille de l'Épante, qui est la grande confrontation entre les chrétiens, oui, et les musulmans, a lieu le 7 octobre 1571. 8 mois passent, seulement 8 mois, et c'est la Saint-Barthélemy, l'affrontement entre chrétiens à Paris.
Il y a toujours une leçon dans vos livres. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en évoquant cette période lointaine? Est-ce qu'elle a encore de l'actualité à vos yeux?
Je pense qu'elle a beaucoup d'actualité. Je pense réellement, et c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, que le 21e siècle porte en lui les germes d'un nouveau XVIe siècle, c'est-à-dire d'un nouvel affrontement où se mêlent à la fois les questions de politique extérieure et les questions religieuses.
Merci Max Gallo. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un roman, Paris vaut bien une messe, la deuxième partie de La Croix de l'Occident, qui est un roman historique sur les guerres de religion, en 2 volumes et qui vient d'être publié en coffret chez Fayard. Vous êtes également l'auteur, sur la période de la Première Guerre mondiale, cette fois de Mort pour la France, qui vient d'être réédité en livre de poche aux éditions J'ai lu. Vous avez pu entendre des extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau avec Daniel Auteuil dans le rôle de Henri IV, ou Henri de Navarre plutôt, un film disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernay et Lédune Caron, Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien et Gilles Davidas qui était le réalisateur de cette émission.